Serge Abitboul est un des grands informaticiens français. Il a 68 ans et une longue carrière, directeur de recherche à l'INRIA et à l'ENS, aujourd'hui membre de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Il siège à l'Académie des sciences, etc. Bon, ses travaux sur les bases de données ont marqué l'histoire de la discipline. Depuis une quinzaine d'années, on se croise de loin en loin et toujours avec grand plaisir. Jusqu'à ce que récemment, une connaissance commune me dise « Mais tu sais, Serge était à Stanford quand Google a été créé. » Il a tout vu, il a assisté aux premières démos et tout ça. Non, je savais pas. Et ça m'a tout de suite excité. D'abord parce que ça n'est pas rien d'avoir assisté à un des grands moments de l'histoire récente. Alors, on peut penser ce qu'on veut de Google, ses services ont participé à façonner notre monde contemporain. Serge a vu Google avant même que Google naisse. Ensuite, je trouve assez beau qu'il ne s'en vante pas. Moi, bon, ce serait la première chose que j'essaierais de caser dans une conversation. Ouais, je me souviens très bien quand j'étais à Stanford et que j'ai vu la première démo du search de Google. Ouais, c'était ouf.
Xavier Delaporte.
Ça m'excite aussi, parce que je serais très curieux de savoir comment ça s'est passé. C'était quoi l'ambiance à Stanford à ce moment-là ? Comment ils étaient, Sergey Brin et Larry Page, les deux créateurs de Google ? C'était quoi leur génie ? Enfin, je serais évidemment curieux de savoir ce que Serge pense de ce qu'est devenu Google aujourd'hui. Depuis l'invention du moteur de recherche et de la première version de PageRank, l'algorithme de base de ce moteur, il s'en est quand même passé des trucs. Hein. Et pas toujours à la gloire de Google. La grande chercheuse Shoshana Zuboff, là, ma copine, fait même de Google le pionnier du capitalisme de surveillance. Avoir installé un modèle économique qui repose sur l'exploitation des données personnelles, c'est quand même une responsabilité politique gigantesque. Bref, c'est avec tout ça en tête que j'ai demandé à Serge de venir me raconter cette histoire. Alors le pauvre, il n'était pas très en forme ce jour-là quand il est arrivé. Mais je sais pas pourquoi, ça nous a fait marrer, on devait être content de se retrouver.
Le code a changé.
Une fois célébré notre joie de nous revoir, on s'est quand même mis à discuter et on est parti du tout début. Comment Serge s'est-il retrouvé à Stanford au milieu des années 90?
Je suis arrivé à Stanford pour suivre mon épouse. Mon épouse était directrice d'une boîte d'informatique qui s'appelait O2 Technologies. Ils ouvraient le site américain qui était à Palo Alto. Et donc, moi, j'ai cherché un point de chute. Et évidemment, Palo Alto, Stanford, machin, les grands rêves. Donc, j'ai écrit à Stanford et j'ai eu une chance extraordinaire. J'ai été embauché comme prof invité à Stanford, où je suis resté 2 ans.
Voilà, Serge, c'est le genre de type à suivre son épouse. Et d'ailleurs, je me souviens que quand il avait occupé la chaire d'informatique et de sciences numériques au Collège de France, en 2012, il avait prononcé un discours inaugural, comme il se doit, hein, et il avait commencé comme ça.
Mes chers collègues, chers amis, en cette journée internationale de la femme, j'aimerais dédier ma leçon inaugurale à l'étudiante en informatique, à l'étudiante en mathématiques ou en sciences, qui se fait si rare sur nos campus. Elle est assise au premier rang, elle pianote peut-être un SMS en s'aidant de ses 2 pouces. Elle est la petite poussette de Michel Serres.
C'était en mars 2012. Hein. Et Serge disait déjà son inquiétude de constater l'absence des femmes dans ces disciplines. Pas grand monde ne s'en préoccupait à l'époque. Hein. Mais bon, je m'égare. Donc, entre juillet 95 et juillet 97, Serge est à Stanford. Je vois bien pourquoi Serge était intéressé par Stanford. Il avait déjà passé un peu de temps en Californie dans les années 70 à Los Angeles. Mais bon, Stanford en 95, c'est autre chose. C'est une énorme université au cœur de la Silicon Valley et au centre de ce qui se passe dans l'Internet naissant. Par exemple, c'est à Stanford, où ils étaient étudiants, que Jerry Yang et David Filo ont créé Yahoo en 94, un an avant l'arrivée de Serge. Bref, je comprends pourquoi Serge était intéressé par Stanford, mais qu'est-ce qui intéressait Stanford chez Serge ?
Les travaux que je menais à l'époque, je travaillais sur les données semi-structurées, et puis j'étais à cheval sur à la fois des choses assez fondamentales, la théorie, et des choses très appliquées, développement de système, et je pense qu'ils avaient envie de ça, puisqu'ils avaient des gens comme Jeff Ullman, qui est un théoricien, et des gens comme Jennifer Widom ou Hector Garcia Molina, dans le même groupe, qui étaient des gens plutôt système. Et donc, je faisais un peu le pont entre les deux parties du groupe.
J'ai pas osé dire à Serge que je n'avais jamais entendu parler des trois personnes qu'il a citées. J'ai attendu de rentrer chez moi pour regarder, et là, j'ai pris la mesure du niveau de ce groupe qui s'appelait donc l'Information Lab, le laboratoire d'information de Stanford. Les trois sont d'immenses informaticiens. Jeff Woolman, le théoricien, a reçu trois des plus grandes récompenses de sa discipline, le prix Knuth, la médaille von Neumann et le prix Turing. Bon, tout ça, c'était après le passage de Serge à Stanford, mais enfin, quand même, hein, il n'a pas attendu ce départ de Serge pour devenir bon. Jennifer Widom a aussi été largement récompensée, en plus de diriger l'école d'ingénieurs de Stanford. Quant à Hector Garcia Molina, il a fait une grande carrière aussi, et c'est en regardant son pédigré d'ailleurs que je vois qu'il était à l'époque le référent de Brin, l'un des deux fondateurs de Google. Donc. Et le domaine de recherche de tout ce petit monde, ce sont les bases de données. C'est assez marrant ce champ de l'informatique, les bases de données. J'avoue que je l'ai un peu découvert la première fois que j'ai rencontré Serge, en 2012, quand il a occupé donc la chaire du Collège de France. Alors évidemment, je savais ce que c'était que des bases de données, mais je savais pas que c'était une discipline en soi. Alors à l'époque, Serge m'avait expliqué qu'on associait le plus souvent l'informatique au calcul, hein, d'ailleurs en anglais on dit « computing science » pour l'informatique, la science du calcul, mais m'avait-il dit, la plupart du temps, les calculs sont pas si compliqués que ça en fait. Alors que le traitement des données, c'est tout aussi central, mais c'est beaucoup plus compliqué. Alors, il y a les données qui sont relativement facilement traitables, parce qu'elles sont propres et qu'on peut les mettre dans des tableaux à deux dimensions. Ça s'appelle les données structurées, par exemple les chiffres qu'on met dans un tableau Excel. Mais il y a aussi les données non structurées, comme les données textuelles, par exemple, pour lesquelles il faut inventer d'autres modèles. Le tableau en deux dimensions, pour traiter des mots qui peuvent être très polysémiques, ça marche pas. Et puis, entre les deux, il y a les données semi-structurées, donc celles qui intéressaient Serge à l'époque. Alors, c'est quoi les données semi-structurées ? Bah, c'est entre les données structurées et les données non structurées. Alors, par exemple, si j'ai bien compris, on pourrait classer les images dans les données semi-structurées. Parce que si l'image en elle-même n'a pas de structure, elle peut être accompagnée de métadonnées, comme la géolocalisation ou l'horodatage, qui font qu'au final, l'image est une donnée semi-structurée. Donc, les gens de l'Information Lab s'intéressent à tout ça. Ils y réfléchissent théoriquement et pratiquement, en imaginant des systèmes pour les classer, des langages pour les manipuler, et aussi des moyens de les rendre accessibles. Et ça, ça devient très important, parce que en 1995, l'informatisation du monde est galopante et que le web est en train de grandir, amoncelant et rendant disponible un nombre toujours croissant de ces données de toutes sortes. L'Information Lab, donc, c'est un peu the place to be à ce moment-là. Mais bon, à Stanford, il n'y a pas simplement ce laboratoire. Stanford, c'est une université assez incroyable. J'y suis allé une fois en touriste, il y a quelques années, et j'avais été frappé par la taille déjà, hein, c'est une ville quoi, mais aussi par l'architecture. Dans la partie la plus historique de la fac, on a l'impression d'être dans une gigantesque hacienda mexicaine.
Oui, un petit peu, et puis il y a le soleil tout le temps. Alors, je suis un peu ambigu vis-à-vis de Stanford. Il y a le côté que j'aime bien à Stanford, c'est-à-dire un campus hyper confortable avec des très beaux bâtiments, le labo et tout le state of the art, enfin tout était là. En même temps, ce que j'aimais un peu moins, c'est que c'est quand même un ghetto pour riches, quoi. C'est-à-dire que les gosses qui vont là-bas sont, enfin les étudiants qui vont là-bas sont plutôt des étudiants qui ont de l'argent. Et donc j'enseignais aussi à Berkeley un petit peu, et Berkeley c'est complètement différent. Là, c'est l'université de Californie, c'est plus mélangé. En plus, on est dans la ville, donc il y avait des mendiants, des choses comme ça, des gens avec piercing, machin. Stanford, c'est quand même, les gens sont à peu près tous beaux, intelligents et riches, quoi.
J'essayais d'amener Serge vers l'architecture latina de Stanford. Il répond par la sociologie. Ok, allons-y alors. Ces étudiants, ils étaient intelligents, beaux et riches, mais est-ce qu'ils étaient vraiment bons ?
Bah oui, bien sûr. Si je prends juste le groupe où j'étais, on avait 7 ou 8 Chinois, 7 ou 8 Indiens, des Européens, des Sud-Américains, et à chaque fois, c'était les meilleurs de leur pays, quoi. J'ai vu des CV qui sont hallucinants, des CV d'Indiens, par exemple, qui avaient, je sais pas moi, ils avaient fait un concours national avec 4 millions d'étudiants, et ils étaient quatrièmes. Les étudiants là-bas étaient vraiment incroyables.
Quand on regarde un peu les bios de Sergey Brin et Larry Page, on voit assez bien ce que Serge veut dire. Tous les deux étaient vraisemblablement hyper balèzes. Ils avaient d'ailleurs un point commun, ils étaient tous les deux des enfants de scientifiques. Sergey Brin est le fils d'un prof de maths russe, arrivé aux États-Unis à la fin des années 70 et qui enseigne à l'université du Maryland. Et Sergey Brin est doué. En 93, il a 19 ans et il obtient l'équivalent d'une licence de maths et informatique dans cette même université du Maryland. Et c'est à ce moment-là qu'il part faire son PhD à Stanford. Du côté de Page, c'est encore plus impressionnant. Hein. Ses deux parents sont des universitaires reconnus. Sa mère est prof de programmation et son père, lui, il est prof d'informatique et pionnier de l'intelligence artificielle. Alors, la légende de Page veut qu'il se soit mis à l'informatique à 6 ans, qu'il ait été le premier élève de son école à faire un devoir sous traitement de texte et qu'il ait voulu fonder sa première entreprise à 12 ans. Alors, si à des types comme ça, on ajoute les Indiens dont parlait Serge, les meilleurs latinos, les meilleurs Européens, je me dis que quand on est prof, là-bas, on doit bien flipper. Et donc, je demande à Serge comment il travaillait, lui, avec ces gens-là.
Moi, j'avais ma porte ouverte. Les étudiants qui avaient envie de venir causer, ils frappaient et rentraient. Il fallait qu'ils demandent une semaine ou deux semaines pour avoir un rendez-vous avec leur directeur de thèse, qui avait plein de choses à faire, des comités, des machins. Moi, j'avais rien. Je faisais de la recherche à plein temps. Donc, les types arrivaient, puis ils me posaient une question, et puis on passait deux heures au tableau, et puis ils repartaient.
Mais c'est quoi une question qu'on me pose à un mec comme toi
Quelqu'un venait, arrivait en me disant « Bah voilà, je travaille sur tel et tel problème, et puis on ne sait pas trop la complexité. » Mon directeur de thèse, il ne sait pas du tout ces trucs-là, il m'a dit que tu saurais peut-être. Et donc, on commençait par formaliser son problème. Comment ce problème se pose en termes théoriques, c'est-à-dire en enlevant un peu tous les détails des machins. Et puis après, bah, on se replonge sur la théorie de la complexité, qui essaie de voir si un algorithme est, par exemple, faisable en temps polynomial, s'il demande un temps exponentiel, des choses comme ça.
Alors là, je n'ai absolument aucune idée de ce que raconte Serge. En même temps, moi, je ne suis pas étudiant à Stanford en informatique, donc je laisse continuer.
Et en fait, c'est des techniques assez standards.
Ouais, c'est sûr.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les mecs sont super bons. Donc la première fois, tu leur expliques, la deuxième fois, tu le fais avec eux, puis alors après...
D'accord. Donc, à l'Information Lab, en 1995, il y a des profs extraordinaires parmi les meilleurs spécialistes au monde sur les bases de données. Il y a des étudiants, pas simplement beaux et riches, mais aussi excellents. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui, à ce moment-là, excite tout le monde. Internet a déjà quelques décennies, mais le web, lui, il a que 5 ans. Il existe des navigateurs qui permettent de consulter des pages reliées entre elles par des liens hypertextes. Le nombre de sites ne cesse d'augmenter de mois en mois. Ok, mais les gens dans le labo, ils bossent sur quoi précisément ?
Les sujets qui nous excitaient le plus, c'était d'abord les sujets dont j'ai parlé tout à l'heure, les données semi-structurées. Le deuxième sujet qui intéressait beaucoup, c'était la distribution de données. C'est le fait qu'on peut avoir des données dans, je sais pas, 50, 100, 1000 machines et qu'on voudrait présenter ça comme une base de données unique. Et puis, il y avait les moteurs de recherche. Alors moi, je travaillais plutôt sur ces deux premiers. Mais les moteurs de recherche, évidemment, je suivais.
Évidemment, les moteurs de recherche, c'est le truc du moment pour qui s'intéresse aux données. Parce que ça répond à une question très importante. Comment on rend fonctionnel ce truc bordélique qu'est le web, qui amasse des données de toutes sortes, dans tous les sens? Comment on les classe, comment on les manipule, comment on fait en sorte que l'internaute puisse trouver ce qu'il cherche? Parce que avec le web, ce sont plus simplement les informaticiens et les geeks qui veulent accéder à ces données, c'est tout le monde. Or, c'est très compliqué, et pour trouver, à ce moment-là, il vaut mieux avoir directement l'adresse URL. Alors, en 1995, Yahoo est mis en ligne. C'est pas vraiment un moteur de recherche, Yahoo, puisque c'est plutôt un annuaire, mais son rôle est important. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais dans la série Super Geek Halt and Catch Fire, qui raconte les débuts de l'informatique personnelle et d'Internet à travers la lutte entre une petite société texane et un mastodonte qui ressemble pas mal à IBM. Donc, dans cette série, il y a une scène assez marrante où une ancienne ingénieure devenue femme d'affaires rigole quand on lui présente Yahoo, ne voyant pas du tout le potentiel du truc.
What is Netscape Search Directory called?
Comment s'appelle cet annuaire de Netscape déjà?
C'est Yahoo.
Yahoo.
I'm sorry, what is it?
Pardon, comment tu dis?
It's Yahoo.
C'est Yahoo.
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 Yahoo. Ouais,
Yahoo. Yahoo with an exclamation point.
Yahoo avec un point d'exclamation.
Oh, Yahoo with an exclamation point, not a question mark.
Oh, Yahoo avec un point d'exclamation, pas d'interrogation.
Because you keep saying Yahoo with a question mark, so I was...
T'arrêtes pas de dire Yahoo comme si tu posais une question, alors c'est...
Ok, d'accord.
Shouldn't it be more like...
Ça devrait plutôt être...
Yahoo!
Yahoo!
Sure.
T'as raison.
Come on. Drill down with me now, Trip.
Yahoo!
Allez, répète après moi, vas-y, Trip. Yahoo!
Yahoo!
Non.
Yahoo!
Non, c'est pas ça, non!
Oh, Jesus, now put some mustard on it, you know? Yahoo!
Allez, vas-y, vas-y, des Trip, vas-y! Yahoo!
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 Bref, il y a donc Yahoo! Mais il y en a d'autres. Alta Vista, qui est mis en ligne en décembre 1995 par une boîte privée, DEC, et qui devient vite assez populaire. Et puis quelques mois avant, il y en a eu encore d'autres qu'on avait oubliés, comme Excite, qui a été créé par des étudiants de Stanford déjà. Bon, bref, le moteur de recherche, c'est le truc du moment. On peut donc comprendre que ça intéresse deux types super forts comme Larry Page et Sergey Brin. Est-ce que Serge se souvient de la première fois qu'il a entendu parler de leur projet ?
Oui, assez bien. Ils sont arrivés avec une idée. On veut faire un moteur de recherche pour le web. Donc moi, je regardais ça, je dis, c'est intéressant parce que franchement, les moteurs de recherche de l'époque, c'était nul, quoi. Je me dis, tiens, s'ils peuvent améliorer un peu, c'est comme ils sont brillants, ça peut être intéressant. Et donc, ils nous ont expliqué leur idée. En gros, ils arrivent, il y a 20 personnes dans la salle et puis ils commencent à raconter ce qu'ils veulent faire au tableau. Et puis, vous êtes là, vous penchez là-dessus. Puis au début, moi, je me disais, non, mais ça peut pas vraiment fonctionner, ce truc-là. Alors, très vite, on a cerné deux problèmes. Il y avait le problème de... Est-ce que ça correspondra à ce que les gens attendent ? Parce que c'est ça, un moteur de recherche. Ça marche si les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Et ça, la théorie ne peut pas l'expliquer. Ils avaient des idées assez révolutionnaires sur l'architecture de leur moteur de recherche. Et la deuxième question, c'est... Ouais, non, mais attendez, là, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent mettre l'index en mémoire principale. Non, mais ça ne va pas à la tête, on ne fait pas ça. Ils veulent faire marcher des milliers de machines ensemble. Ça me paraissait un peu farfelu de faire marcher des milliers de machines ensemble. Mais est-ce qu'ils peuvent arriver à faire un truc comme ça ?
Je sais pas si je comprends vraiment le scepticisme de Serge. Bon, faire travailler plusieurs centaines de machines ensemble, vu depuis aujourd'hui où des millions de machines travaillent ensemble, ça paraît pas ouf. Mais ok, je conçois qu'en 1995, c'était une autre paire de manches. En revanche, mettre l'index en mémoire principale, alors là je vois pas du tout pourquoi c'est un problème, étant donné que je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire. Donc je demande à Serge de m'expliquer.
Un moteur de recherche, ça fonctionne un peu comme l'index d'un livre. À la fin du bouquin, t'as l'index qui dit le mot de la porte, il se trouve à la page 4, à la page 14 et à la page 18. Alors là, comme on le fait à la main, on ne met pas tous les mots. Un index de moteur de recherche, en gros, on enlève les mots les plus fréquents parce qu'on ne va pas indexer « deux »,« il », »,« bonjour ». Mais tous les mots qui ont un petit peu de sens, on les indexe. C'est-à-dire qu'on construit un index qui, pour chaque mot du web, donne la liste des pages sur lesquelles ce mot se trouve. Alors après, si je fais maison de la radio de la porte, on va chercher la liste des pages qui contiennent maison, la liste des pages qui contient radio et la liste des pages qui contient de la porte. On fait l'intersection de ces trois ensembles et on a la liste des pages qui contiennent maison de la radio Xavier de la porte. C'est en gros ce que faisaient les moteurs de recherche jusque-là. Mais après, la question à 100 balles, c'est comment on les classe. Mais alors, si on revient à ta question, c'est l'index en mémoire principale, c'est si tu mets l'index sur un disque, à chaque fois que quelqu'un pose la question maison de la radio de la porte, il va falloir aller faire des accès sur disque. Un accès sur disque, c'est quelques millisecondes. Donc, il va falloir faire un accès pour Xavier, un accès pour de la porte, etc. Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé à bosser, on a déjà perdu une dizaine de millisecondes. Et eux, ils disent, non, plutôt que de faire ça, nous, ce qu'on va faire, c'est on va mettre l'index en mémoire principale.
Ok, c'est bon, là, j'ai compris, mais comment on fait ça ?
C'est de la technologie de base, c'est-à-dire que moi, j'étais resté avec la mémoire, c'est petit, c'est cher. Et puis, eux, ils étaient plus jeunes, donc ils arrivaient dans un monde où tu pouvais acheter un giga pour pas grand-chose. Et donc, à partir du moment où tu peux acheter un giga pour pas grand-chose, voire 10 gigas pour pas grand-chose, tu te dis, si je mets 100 machines avec 10 gigas, j'ai déjà une grosse mémoire. Et c'est exactement leur point de vue. C'était, on va mettre des machines pas chères, avec de la mémoire pas chère, et puis avec ça, on va faire une grande mémoire pas chère dans laquelle on pourra mettre l'index. Et maintenant, la question, c'est, mais les algorithmes pour faire fonctionner tout ça, c'est compliqué, parce qu'il va falloir faire fonctionner toutes ces machines, certaines peuvent tomber en panne, et puis il faut les faire causer entre elles, et oula, ça va être compliqué. Moi, c'est pareil, j'avais encore un peu mes schémas mentaux qui est faire fonctionner entre eux une dizaine de machines, quand j'ai commencé l'informatique, c'était même pas concevable. Quelques années après, ça l'était. bah, eux, ils sont arrivés avec un moment où faire fonctionner entre elles un millier de machines, c'était possible. Donc, d'une certaine façon, je savais ça, j'avais vu des exemples, mais j'avais encore un peu la rigidité mentale du vieux qui pense que ça va être compliqué. Et eux, ils n'avaient pas ce complexe-là. Et donc, ils nous ont démontré, alors ce que les Américains appellent « back of the envelope », sur l'arrière de l'enveloppe, on fait un petit calcul, combien on va avoir de machines, combien on va avoir de gigaoctets par machine, combien coûte une machine, etc., combien coûte la mémoire, et puis on arrive à un prix, je sais pas moi, 200 000 dollars. Bon, c'est raisonnable. Et alors là-dessus, il se tourne vers le prof en disant est-ce que tu pourrais nous trouver cet argent ? Et le prof dit mais oui, il n'y a pas de problème. Donc il a trouvé du fric, ils ont acheté leur machine et.
C'était parti, on ne peut pas le dire autrement. Mais j'avoue que je suis assez étonné par la manière dont Serge raconte cette histoire. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent « Bah voilà, Page et Brin sont arrivés avec un algo de classement hyper original qui faisait ressortir en tête les pages les plus immédiatement utiles, etc. » Parce que moi, ce que je connais du moteur de recherche de Google, c'est PageRank, l'algo de classement dont j'ai toujours lu et entendu qu'il fonctionnait sur un principe génial et novateur. Au lieu de me raconter ça, Serge me parle de mémoire, de nombre de machines, de prix de la mémoire, de prix des machines, bref, d'architecture techno. De choses que je n'avais jamais entendu évoquer dans les grands récits épiques de la naissance de Google. Alors évidemment, je lui fais la remarque. Bon, je veux bien que la techno ce soit super important dans l'histoire, mais enfin, il y a quand même PageRank.
Ouais, c'est l'invention qu'ils ont faite, parce que le reste, c'était moins original. Sauf que même ça, c'était pas hyper original. Parce qu'en fait, ils sont très inspirés d'un mec d'IBM qui s'appelle John Kleinberg, qui avait fait un algorithme qui s'appelait ITS. Et en gros, ils ont simplifié ITS en disant, bon, il y a la question, les pages qui pointent vers beaucoup de pages, l'autorité, tout ça, c'est trop compliqué, on n'y arrivera pas. Donc, on va juste regarder la popularité des pages. Et donc, leur algorithme, c'est d'essayer de trouver quelles sont les pages les plus populaires. Il y a une façon bête, c'est de compter combien de pages pointent vers toi. Et si t'es un instituteur à Romorantin, t'auras moins de pages qui pointent vers toi que si t'es le musée du Louvre. Donc déjà, il y a ça qui marche bien, mais ça marche pas complètement. La deuxième chose, c'est de dire, mais là-dedans, on va donner du poids aux pages qui sont importantes, qui sont déjà populaires. Donc plus t'es pointé par des pages populaires, plus tu es populaire. Mais là, du coup, ça devient une définition circulaire. Comment tu fais pour calculer ça ? L'idée géniale qu'ils ont eue, c'est de dire cet algorithme HIT de Kleinberg qu'il a fait pour les références bibliographiques quand il y a 10 000 ou 100 000 références bibliographiques, nous on va le faire avec les pages du web parce que les pages du web c'est beaucoup plus. À l'époque c'était pas comme aujourd'hui mais c'était déjà des dizaines de millions. Et donc ils ont dit on peut le faire, ils l'ont codé et puis en voiture Simone.
Je sais pas si « en voiture Simone » est exactement l'expression que j'emploierais en l'occurrence, mais je trouve que sa désuétude fabrique un beau contraste. Bon, bref. Donc, Sergey Brin et Larry Page codent l'algorithme qui s'appellera plus tard PageRank et qui est aujourd'hui un des éléments de l'assemblage d'algorithmes qui permet de classer les pages quand on fait une recherche sur Google. Même si le brevet n'est déposé que début 1997, j'imagine que les gens de Stanford ont eu droit à des démos. On fait ça en informatique, des démos. Et donc, je demande à Serge s'il se souvient de sa première démo du moteur de recherche de Google.
Brin débarquait dans mon bureau en disant « Tu veux voir une démo du moteur de recherche ?» Il m'a mis deux ordis. D'un côté, il y avait, je crois que c'était Inktomi ou AltaVista, je crois que c'était Inktomi. De l'autre côté, il y avait sa machine. J'ai tapé, alors Rodin, parce que j'aime bien la sculpture. Dans Google Search, le musée Rodin arrive en numéro 1. Dans Inktomi, il était assez loin. Après, j'ai tapé SGML qui lançait d'XML parce que je travaillais là-dessus. Leur deuxième réponse, c'était le manuel de SGML qui n'apparaissait pas dans la première page de l'autre moteur de recherche. Et donc, à ce moment-là, j'aurais mis toutes les économies que j'avais pas sur leur moteur de recherche, mais ils ne me l'ont pas demandé. Sinon, je serais probablement multimillionnaire, peut-être milliardaire aujourd'hui.
Ouais, c'est sûr, c'est dommage. Comme quoi, la vie, ça se joue à peu de choses. C'est marrant parce que j'ai des pensées hautement philosophiques en écoutant Serge. Mais bon, le fait qu'il ne lui ait pas proposé de les rejoindre ouvre quand même une question. Il y avait une différence d'âge, c'est sûr, 20 ans à peu près, de statut aussi, Serge était prof, eux étudiants. Bon, enfin, ça n'empêche pas. Quel rapport Serge avait-il avec l'un ou l'autre ? Qu'est-ce qu'il pense de l'un et de l'autre ?
J'étais surtout copain avec Sergey Brin, je connais assez mal Page. Donc mon interprétation, mais c'est sujet à caution, Sergey Brin, c'était le type créatif, le type qui avait 5 idées par minute, moi, il débarquait régulièrement dans mon bureau en disant « Ah, j'ai un nouveau truc !» Et puis, il me sortait un truc farfelu. Certains de ces trucs farfelus se sont retrouvés plus tard dans le moteur de recherche. Donc je pense que c'est lui qui avait les idées, mais j'en sais rien. Larry Page était le mec plus carré, plus solide. Brin, c'était un jeune qui adorait s'amuser, qui adorait faire la fête, qui avait pas 500 balles sur son compte en banque. Très, très gai, très bon vivant.
Là, Serge a glissé un truc qui m'intrigue. Il a parlé d'idées un peu farfelues que Brin pouvait avoir, qu'il a évoquées devant lui en tout cas, et dont il pense que certaines se sont ensuite retrouvées dans l'algorithme du moteur de recherche, en plus de PageRank et d'autres indicateurs. Donc je lui demande s'il a le souvenir de l'une de ces idées un peu marrantes.
L'idée de Brin à l'époque, c'était si on pose une question sur le web, il y a de fortes chances que la phrase d'après soit la réponse. et donc ça marchait pas trop, mais je me demande si aujourd'hui des fois ils font pas des trucs un peu comme ça. Alors évidemment, avec la technologie qui est vachement avancée, c'est que maintenant ils ont des ontologies, donc ils analysent la question, ils la sémantisent, etc. Et je sais pas, mais peut-être.
Bon, on peut pas savoir évidemment de quoi est vraiment fait dans le détail l'algo de Google Search, parce que bon, il est pas fait simplement de PageRank, hein, et en plus il ne cesse d'évoluer. Mais je trouverais assez beau que cette idée, hein, qui veut que sur le web, la phrase qui suit une question soit le plus souvent sa réponse, ait pu y être introduite d'une manière ou d'une autre. Il y a un côté trivial que je trouve merveilleux, et c'est peut-être à cause de ce type d'idée, effectivement un peu farfelu au départ et pas toujours vrai, hein, que Google fonctionne mieux que les autres. Bon, je crois que à mesure qu'avance le récit de Serge, je saisis mieux le génie des mecs. Mais ce que je ne sais pas, c'est ce qui les motive. C'est deux types, hein. Ce sont deux scientifiques. Mais quand ils créent leur moteur de recherche, c'est quoi leur but ? C'est rendre service aux premiers internautes qui galèrent sur le web ? C'est faire avancer la science ? C'est faire du fric ?
Il faut reconnaître que quand même ce qui poussait beaucoup les étudiants dans ce groupe, c'était la réussite, la start-up qu'on va monter, qui va tout casser. Hein. Il y avait un jeu entre les étudiants du groupe qui était qui mettra le moins de temps pour obtenir son premier million de dollars. Donc voilà, il y avait quand même l'idée, la réussite, c'est d'abord de faire une start-up et de casser la baraque, de changer le monde, il y avait un petit peu ça. Brin était un peu aussi idéaliste. Don't do evil, à mon avis, c'est le genre de truc qu'il aurait pu sortir.
Ah
parce
ouais.
Que oui, il voulait changer le monde en bien.
Don't be evil et pas don't do evil, hein, comme le dit Serge, ça a longtemps été la devise de Google. Alors évidemment, cette devise, elle a été largement commentée. Parce qu'on voit bien que ne sois pas malveillant, qui est une des traductions possibles, hein, ça peut sonner comme une injonction utopiste, pour pas dire un peu coconne, pour une start-up qui lance un moteur de recherche efficace et gratuit. Mais ça peut aussi passer pour ironique, voire carrément cynique, quand cette start-up devient quelques années plus tard une énorme entreprise qui prospère sur l'extraction de données personnelles, qui joue de sa position quasi hégémonique, qui s'arrange pour détourner les lois fiscales des pays, qui accepte de filtrer des contenus pour les internautes chinois pour se mettre en conformité avec les exigences de dirigeants chinois. Mais bon, on voit bien le truc, hein. Au début, les ambitions peuvent se mêler. Gagner de l'argent, mais aussi faire un truc qui marche, qui fait avancer le public. Tout ça, ça peut aller ensemble. Si le moteur de recherche créé par Page et Brin impressionne tout de suite Serge, c'est aussi, il l'a dit tout à l'heure, parce que les autres étaient nuls. Mais pourquoi ils étaient nuls ? Savoir pourquoi les autres ne marchaient pas, c'est peut-être aussi une manière de comprendre la force de Google.
Il y avait en gros deux écoles. Il y avait l'école issue de Information Retrieval. C'est-à-dire, on va classer les pages suivant la façon dont le mot est placé dans la page. Donc, si le mot est dans le titre, c'est plus important. Si le mot est en gros, début, c'est plus important. Si le mot est répété plein de fois, c'est plus important. Par contre, si le mot est qu'une fois vers la fin, on va considérer que c'est un peu bidon. Sans regarder le reste. Alors que la grande différence avec PageRank, c'est on regarde le graphe du web. On regarde pas uniquement la page. Donc ça, c'était la première chose qui marche pas. En fait, les moteurs étaient pathétiques parce que ça marche pas. Par exemple, j'avais trouvé une page, quand j'avais posé SJML, j'avais trouvé une page qui était entièrement en japonais avec un seul mot en anglais qui était SJML. Comme ils enlevaient tous les mots qui étaient pas anglais, la page parlait de 100% de SJML, donc elle était en premier. C'est pas la bonne méthode. Et puis, il y avait l'idée de Yahoo qui était plus dans la curator, archivage. C'est-à-dire, on va demander à des humains de classer les pages, de dire celles qui sont importantes, etc. Et ça, c'était peut-être concevable quand, avec un web de 50 millions de pages. C'est juste pas concevable avec un web gigantesque.
D'accord, là, je vois bien comment le moteur de recherche de Google est nettement plus subtil. Mais bon, j'imagine qu'une fois qu'on a un algo de classement qui fonctionne bien, qu'on a une bonne architecture techno, il y a encore plein de trucs vachement compliqués dans le fonctionnement du moteur. Des problèmes qu'on n'imagine même pas, enfin en tout cas que moi je n'imagine pas. Bon, Serge confirme.
Il y a plein de problèmes techniques très compliqués quand on veut gérer des tailles pareilles. Par exemple, les URL sont très longs. Donc il faut stocker cette grosse quantité d'informations pour pas perdre de temps en la lisant. Et puis après, il y a des trucs qui peuvent paraître simples, qui sont, mais comment on fait pour ce qu'on appelle crawler le web, c'est-à-dire parcourir le web et découvrir des pages. Moi, j'ai passé 2 ans de recherche à faire ça avec des étudiants à Paris. Mmh. Parce que comment vous cherchez? Quand vous avez une page, vous suivez tous les liens, puis vous avez une page, vous suivez tous les liens, puis alors vous pouvez vous retomber dans des trous, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis après, il y a plein de problèmes techniques, parce que si vous vous attaquez à un site web et que vous l'agressez en balançant des centaines de requêtes, vous allez vous faire engueuler. Quand on l'a fait avec des étudiants, pour donner un exemple, on a cassé à peu près tout ce qui était cassable dans le réseau de l'INRIA, quoi.
C'est-à-dire?
Il y a par exemple un système qui s'appelle le Domain Name Server, à qui on donne un URL et qui vous dit comment y accéder. Quand notre truc était un peu au point qu'on l'a lancé, le système a explosé. Parce qu'on envoyait trop de requêtes. Donc il a fallu qu'on construise le nôtre. Et puis après, quand on a construit le nôtre et donc on a commencé à crawler, j'ai eu au bout d'une heure un coup de téléphone des services INRIA en disant « Dis donc Serge, là t'es en train de prendre 80% de la bande passante de l'INRIA nationale. C'est peut-être pas tout à fait ce que tu veux faire. » Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont techniquement à résoudre et qui demandent un peu des algorithmes un peu sophistiqués.
Le génie de Google se glisse aussi donc dans la résolution habile de toute une série de questions techniques qui peuvent foutre en l'air tout le reste si elles sont mal réglées. Je crois déceler dans la manière dont Brin et Page résolvent tous ces problèmes un côté malin. Alors, Serge acquiesce, mais il me dit que ça va au-delà du strict aspect technique et il me raconte une histoire.
On avait de temps en temps des séminaires avec toutes les grosses boîtes qui venaient, on leur racontait tout ce qu'on faisait de génial dans le groupe. Un jour, Brin devait parler, il arrive en patin roulette t-shirt, il traverse toute la salle et il fait sa présentation en gardant ses rollers. Et alors sa présentation, c'était sans contenu. C'était du pipeau, il y avait plein d'images, il y avait plein de graphiques, il y avait plein de trucs assez jolis, c'était très marketing, mais il y avait techniquement, c'était assez bidon. Donc après, je vais le voir, je lui dis, mais Sergueï, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une présentation comme ça, c'est pas scientifique. Et lui me répond, on est en pourparlers avec des gens qui veulent nous financer, et ils veulent pas que je dévoile la techno. Et il me dit, donc, quand t'as rien à dire, tu mets plein d'images.
Alors ça, c'est un scoop. En plus du moteur de recherche, Brin est peut-être l'inventeur de la présentation pipeau, qui en met plein les yeux et qui ne montre rien. Présentation donc qu'il faut faire évidemment en roller et t-shirt pour donner une impression de décontraction qui sied au style californien. Une parenthèse. Dans Silicon Valley, qui est une autre série geek, alors un peu moins geek que Halt and Catch Fire, mais quand même assez geek, parce qu'elle raconte l'épopée de 4 types qui créent un algo de compression ultra performant. Bon, dans Silicon Valley, donc, il y a aussi une scène assez marrante qui se moque des présentations que font les startups devant les parterres d'investisseurs.
Yeah, I think we got a dead zone. An audio dead zone right here. Listen to this.
Ouais, je crois qu'on a une zone inactive là, une zone inactive pour le son juste ici. Écoutez ça.
Hear that? Compared to.
Écoutez ça comparé à.
Okay, here's what I want. Soon as the music comes up,
music?
I want you to hit me with a spotlight. Bam.
Okay, alors voilà ce que je veux. Dès que la musique commence, je veux que vous me mettiez un projecteur. Bam.
And a hard spot. Better yet, do you have those spotlights that come up from the ground?
Est-ce que vous avez un de ces projecteurs qui remontent par le bas de la scène?
I can check.
Je vais voir si on a ça.
Okay, so two of those, one on each side, and then one in the center.
Okay, alors deux comme ça, un de chaque côté, et j'en veux aussi un au centre.
So that it casts my shadow behind me, like a giant looking over his own shoulder.
Pour qu'on voit mon ombre derrière moi. Tel un géant regardant au-dessus de sa propre épaule.
And then at that point, we've got some photos that we're going to throw up on the big screen.
Et c'est à ce moment-là qu'on aura des photos qu'il faudra projeter sur le grand écran.
Photos.
Des photos.
Yeah, you know, just a few. Gandhi, MLK, me as an inquisitive child.
Oui, enfin, vous savez, juste 2 ou 3. Gandhi, Mère Teresa, moi enfant avec un regard profond.
Richard, could you please?
Évidemment, le contexte et l'époque n'ont rien à voir. Hein. Mais bon, je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement. Alors, fin de la parenthèse. En écoutant Serge, on a l'impression qu'il n'y a pas de problème d'argent à Stanford, enfin en tout cas à cette époque-là. Les boîtes se pressent pour investir dans les projets de recherche qui pourraient leur servir. Ça ressemble un peu au début de ce qu'on a appelé la bulle Internet, hein. Le tour de table délirant où les types récoltent plus d'argent que ce qu'ils demandent. Alors, quand je demande à Serge son sentiment, il ajoute un élément.
C'est vrai que l'argent coule à flot. Dans des centres comme Stanford, on reçoit de l'argent très souvent militaire, d'ARPA. J'ai dû être financé par à peu près tous les trucs militaires américains, la Navy, etc. Même si je faisais rien que de la recherche de base qui était publiée. Hein. Il y a plein d'argent pour les centres de recherche.
Intéressant que Serge cite aussi spontanément les investissements militaires. Bon, ils sont historiques. La DARPA, le département de recherche de l'armée américaine, a été un des gros investisseurs du tout premier Internet, on le sait. Et puis sur la côte Est, le MIT entretient des liens étroits avec les militaires. Et donc Stanford n'est pas en reste. Voilà, pas tellement de problèmes pour trouver de l'argent, donc. Mais si on en revient à Google, qui d'ailleurs ne s'appelle pas encore Google à l'époque si je ne m'abuse, hein, j'aimerais savoir ce que ça provoque dans le labo. On peut imaginer, hein, les types ont un projet qui a l'air excellent, leurs démos sont impressionnantes, l'argent afflue. Qu'est-ce qu'en pensent les autres membres du labo, les étudiants, les profs ?
À peu près tous les gens dans le labo les auraient rejoints. Tout le monde imaginerait que ce serait un beau succès. Donc tout le monde voulait partir. Donc ils ont commencé par prendre un étudiant, puis deux étudiants. Puis là, le responsable du groupe les a appelés en disant « Non, là, on se calme, vous ne prenez plus personne. » Ce qui fait qu'à cause de lui, probablement, il y a plein de gens qui ne sont pas devenus multimillionnaires et qui en veulent peut-être pour ça. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que très vite, je pense en 98, peut-être un an après, ils ont commencé à voir la Google Research. C'est-à-dire qu'ils ont, dès le départ, ils se sont dit « On gagnera que par l'innovation et la recherche. » Et ils ont pris quelqu'un qui est décédé depuis, qui est Rajiv Motwani, qui est un chercheur brillant de Stanford, pour démarrer la recherche à Google. En France, on voit des boîtes qui ont 100, 200 personnes et qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait faire un labo de recherche. Eux, ils étaient une dizaine, ils commençaient leur labo de recherche. Donc, ils avaient quand même pas mal d'idées, les petits jeunes.
De fait, ça a tout de suite été le truc de Google. Innover, perfectionner le moteur d'abord, puis développer d'autres services autour. Alors, ça prendrait des heures de raconter l'histoire de ces innovations et des évolutions de Google jusqu'à aujourd'hui. Pour aller très vite, dans les 3 ans qui suivent le départ de Serge, donc de 1997 à 2000, Google devient capable de référencer 1 milliard de pages web, répond à plus de 3 millions de recherches chaque jour en une dizaine de langues et attire de plus en plus d'investisseurs. Mais avant tout ce qui va suivre, hein, et qui va aboutir à l'écosystème qui fait de Google ce qu'il est aujourd'hui, il y a un moment de bascule. Ce moment de bascule, on peut le situer au milieu de l'année 2000, quand Google crée sa régie publicitaire qui s'appelle AdWords. C'est un tournant parce que Google trouve là son modèle économique. Jusqu'ici, c'était un moteur de recherche génial, mais pas rentable en lui-même. C'est un tournant qui va orienter tout le développement de l'entreprise. Le fonctionnement d'AdWords, il est complexe, hein, et il cesse d'évoluer, mais à son fondement, il y a un principe, le ciblage le plus précis possible de l'internaute. La promesse que AdWords vend aux annonceurs, c'est « on fera tout pour que la publicité soit au plus près de l'intérêt de l'internaute ». Or, nous, on a un outil inégalable pour connaître ce que veulent les gens, puisque on peut savoir ce qu'ils cherchent. Et c'est là donc que se met en place une économie fondée sur la production, l'analyse et la marchandisation de données personnelles. Tout ce qui suit dans le développement de Google jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au rachat de YouTube, de Waze ou d'Android, qui va devenir le système d'exploitation de 90% des smartphones dans le monde, jusqu'aux assistants vocaux, aux logiciels embarqués dans les bagnoles, etc. Même si tout ça est génial, même si c'est techniquement et technologiquement admirable, même si ça nous facilite la vie, tout ça est adossé à ce modèle économique. Et ce modèle, il est devenu celui de notre monde. Alors Serge, évidemment, il n'a pas vécu ce basculement. Il est parti de Stanford à l'été 97. Mais je suis curieux de connaître son regard sur cette évolution.
Je pense qu'il faut regarder ça dans le temps. Dans le temps, il y a, disons, Google jusqu'à 2004, et qui est une boîte qui fonctionne très bien et qui fait déjà plein de bénéfices. Hein. C'est assez impressionnant. 2004, ils ont 6 ans. Hein. Ils font le meilleur moteur de recherche du monde et ils le financent avec de la publicité. Moi, je ne suis pas trop gêné là-dessus. À partir de 2015, ils commencent à garder l'historique et à personnaliser. Alors, avec, entre guillemets, toujours la bonne raison, c'est si on personnalise, c'est pour mieux te servir, mais qui en fait est, si on personnalise, c'est pour mieux te cibler. Là, moi, je pense que c'est une entreprise privée dont le but vis-à-vis des actionnaires, c'est de faire le maximum de fric. On leur laisse le droit de faire ça, ils le font. Après, la question, c'est de savoir si on devrait leur laisser le droit de faire ça. Mais je pense que c'est très compliqué de demander à une entreprise de ne pas faire ce genre de choses, parce que l'entreprise à côté va le faire. Donc, ce n'est pas une question de morale, c'est une question de droit.
Là, Serge est plus précis que moi. Pour lui, le basculement, c'est 2004 et la conservation des historiques de navigation. C'est donc pas la création d'AdWords, mais le moment où AdWords approfondit la personnalisation. Mais bon, on est d'accord sur le principe, et Serge le dit très bien. Le basculement, c'est quand toutes les données personnelles produites par l'internaute ne servent plus seulement à améliorer le service, mais qu'elles sont monitorées pour être vendues à des annonceurs. Sur ce que Serge en tire comme conclusion, c'est un problème juridique et pas moral, dit-il, je sais pas si je suis d'accord. C'est un truc qui me gêne, la séparation entre la morale et le droit. Mais bon, c'est une très vieille controverse philosophique, on va pas rentrer là-dedans. En revanche, ça soulève une question. Dans la discussion, Serge a jusqu'ici été très admiratif, à la fois de Page et Brin, et de ce qu'ils avaient créé. Donc, je me demande s'il continue, aujourd'hui, à admirer ce qu'est devenu Google.
Non. J'ai l'impression de m'être fait un peu avoir. Il y avait cette idée que Google favorisait ses propres services par rapport aux services d'autres entreprises. Et Google avait une espèce de mythe qui était « Non, non, on a un mur entre les deux et on ne favorise pas ». Et moi, je l'ai cru. Je l'ai cru parce que j'aime bien Sergey et puis que ça me paraissait la chose modèle à faire. Alors évidemment, j'étais trop naïf et j'aurais dû comprendre que c'est du business, c'est pas de la morale, et que évidemment, c'était tentant de favoriser ses propres services, surtout si personne ne te dit rien.
C'est en effet une accusation qui a souvent été portée contre Google et qui est hyper grave. En gros, ça revient à trafiquer les résultats du moteur de recherche pour faire apparaître en tête les produits Google ou les services Google au détriment des concurrents. Alors on voit bien comment ça entre en totale contradiction avec le principe de départ du moteur de recherche. Et d'ailleurs, de fait, Google a été plusieurs fois condamné à de très lourdes amendes pour ça, 2,47 milliards d'euros par la Commission européenne, par exemple, en 2017. Bon, mais si on en revient à ces deux années passées à Stanford, où il a vu naître Google, donc, est-ce que Serge a eu l'impression de voir l'histoire se faire en acte ?
Non, non, pas du tout. Je me suis bien éclaté et j'en ai rediscuté avec Jennifer Widom. Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte comme c'était incroyable pour moi ces deux années que j'ai passées à Stanford. C'est là qu'elle m'a expliqué que j'avais été très chanceux parce que j'avais été dans l'époque d'or, quoi. C'était la meilleure époque du groupe. Moi, j'avais l'impression que c'était tout le temps comme ça dans ce groupe, mais non, non. J'ai eu du bol, quoi. Mon épouse a été envoyée aux États-Unis la bonne année, quoi.
Ouais, en effet. On peut résumer ça comme ça. Alors, avant de libérer Serge, il me reste quand même deux questions, pas du tout des questions techniques. La première, est-ce qu'il a revu Sergey Brin depuis son départ de Stanford ? Et là, il me raconte que, des années plus tard, il a invité Brin à un séminaire de l'INRIA.
Je lui ai écrit deux fois, j'ai pas eu de réponse, donc je suis passé par Rajiv Motwani, qui est un copain et qui était alors directeur de la recherche chez Google, et je lui ai dit, est-ce que Sergey reçoit au moins mes invitations ? Et donc, au bout d'une semaine, Rajiv m'a répondu, oui, oui, il les a reçus. Donc, je n'ai jamais revu Sergey Brin. Il faut comprendre que ces mecs-là sont sous une pression absolument délirante. Puis c'était pas un ami proche, donc j'en veux absolument pas.
Et deuxième interrogation, s'il le revoyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui poserait comme question ?
Je lui poserais exactement la même question que tu m'as posée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'est devenu Google ? Est-ce que tu penses que ça correspond à l'idéal que tu te faisais d'une entreprise humaniste ou est-ce que tu as accepté parce qu'on t'a convaincu que c'était comme ça le business ? Je ne pense pas qu'il me répondrait honnêtement, mais je lui poserai quand même la question.
C'est évidemment impossible de savoir si Brin a le sentiment d'avoir trahi un idéal. Mais bon, on peut tout à fait imaginer ce qu'il répondrait. Il citerait tous les investissements qu'il a faits au titre de Google ou à titre personnel, dans la santé ou ailleurs, sans attendre de retour sur investissement. Et de fait, bon, c'est colossal, hein. Des centaines de millions de dollars qui sont donnés par Brin à des entrepreneurs solidaires, des assos qui luttent contre la pauvreté ou alors à la recherche médicale. On sait que c'est depuis longtemps la manière dont le capitalisme américain règle la question morale quand, évidemment, sa réussite est assise sur des principes qui ne sont pas follement éthiques. Alors, une fois la discussion avec Serge terminée, je réfléchissais à ça. Qu'est-ce qui se serait passé si Brin et Page n'avaient pas voulu faire AdWords ? Ou alors s'ils avaient fait un AdWords un peu primaire ? Si le moteur de recherche, tout génial qu'il est, s'était pas retrouvé au centre d'un gigantesque écosystème qui absorbe toute une partie de nos activités numériques. Qu'est-ce qui se serait passé si Google était resté ce que Serge en a connu ? Peut-être qu'on l'aurait déjà oublié. Qu'il appartiendrait à l'archéologie d'Internet, comme Alta Vista ou d'autres services dont on ne se souvient plus les noms. On n'en sait rien. On n'en saura jamais rien, mais de toute façon, c'est une question un peu absurde. Un grand merci à Serge Habitboul, à la prise de son, c'était Vincent Désière et Pauline Laverdure, au mixage Benjamin Orgeret, à la réalisation Fanny Bohuon. Le Code a changé est un podcast qui vous est proposé par France Inter en partenariat avec Faber Novel.